Bonjour tout le monde, si je comprends bien, il y a Shavua Tov
Bonjour
à
à
tout le monde, Shalom, je comprends qu'il y a eu
Tov.
ici un débat houleux.
Non, débat houleux.
Non,
Un débat
pas houleux.
amical entre
Un
élèves
débat.
à propos du christianisme, c'est ça?
Non, moi je pense que le cours que vous avez fait la semaine dernière, c'est des notions très importantes au niveau de comprendre qu'il y a un besoin de tzedek aussi et que c'est pas ça, et que le message de la compassion des chrétiens, c'est quelque chose que les Israéliens, je ne sais pas s'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est chrétien et qu'il y a une autre vision du judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le christianisme et qui grandissent en Israël. Et je sais pas s'ils font la distinction des deux. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte des conséquences que ça a, comme on l'a vu dans le chapitre dernier.
C'est tout à fait, et c'est grave parce que ça s'infiltre.
Tout à fait.
Et sans conscience, oui, tout à fait.
Oui, bon, d'accord. Écoutez, je pense que nous allons continuer dans Rota Tchouva. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord.
Bien. Bon, le christianisme est un sujet extrêmement vaste. Il demande une étude en soi. Et je pense qu'on ne peut pas, disons, parce qu'on a parlé dans un détour, on a parlé du christianisme. Je pense qu'on ne peut pas épuiser le sujet. Simplement une petite remarque tout à fait incidente, mais quand même intéressante. Dans un de mes entretiens avec un pasteur évangélique, quand il m'a dit qu'il ne croyait pas en la Trinité, parce que le terme de Trinité n'apparaît pas dans les évangiles. Alors je lui ai dit, d'accord, vous ne croyez pas en la Trinité, mais vous admettez l'incarnation parce que ça se trouve quand même dans l'évangile de Jean. Alors, très embarrassé, il a dû quand même avouer que oui. Mais enfin, bon. Donc, l'incarnation, Trinité, c'est pas tellement différent en vérité. Bon, peu importe. Passons donc à Orot HaTeshuva. Nous sommes dans le chapitre 12, Yudbet. Vous voyez, c'est providentiel, nous sommes arrivés également au passage Yudbet. C'est-à-dire, c'est à la fois le chapitre Yudbet et le passage Yudbet simultanément. Et là, le Rav Kook, sans le dire une seule fois dans ce long passage, mais enfin, sans le dire une seule fois, parle du sionisme politique. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas expressément que c'est ça dont il parle? Parce que l'idée qu'il développe est applicable à d'autres phénomènes également. Et donc, ce que le Rav Kook va nous dire ici, qui vise directement le sionisme politique et laïque de son époque, en fait, est applicable encore à d'autres domaines de pensée. Vous allez le voir tout de suite. Yesh shema chashava yoredet mimromek doulata ou mimkor taharata. Il arrive qu'une pensée descende des hauteurs de sa grandeur et de sa source de pureté. C'est-à-dire qu'il y a des idées très nobles et parfois elles sont prises en main par des acteurs beaucoup plus petit que l'idée elle-même. Alors, de quoi parle le Rav Kook? Vous allez voir tout de suite, il s'agit en fait de l'accomplissement des prophéties qui dit qu'un jour Israël reviendra à sa terre, qu'on va revenir de l'ensemble des nations de la terre et que nous allons retrouver notre indépendance. Ça fait partie donc du programme de la Géoula, qui par la suite doit se concrétiser par d'autres événements tels que la construction du Beth Amikdash, la paix universelle, le retour des prophètes, et tant d'autres bonnes choses. Et on voit que l'accomplissement des paroles prophétiques se fait par des activistes qui, eux, sont mus par des considérations de matérialisme dialectique, marxisant, non ou anti-religieux. Donc, il y a une grande pensée qui est descendue de sa grandeur. Mipne, dit le Rav Kook, parce que, She'ahare asher nidgashma b'maaseh uvachayim, parce que quand elle se concrétise dans les actes et dans la vie, tiplouba anashim she'na magunim, alors elle a été prise en charge par des hommes qui ne conviennent pas, et ont assombri son éclat. Ayirida azot enena yiridat olam. Cette chute n'est pas une chute éternelle. Ki efshar Car il est impossible, chez Atov Aruchani Amachashavi Yeaper Lera, qu'une pensée spirituelle et bonne devienne mauvaise, qui imiridatcha, si ce n'est pour une chute temporaire. Vehi Gamken le Tzorech Aliya, et même cette chute est pour la nécessité de la montée. Ça, c'est le grand principe qu'on trouve dans le chassidisme, que l'âme est descendue dans ce monde pour pouvoir mieux remonter. Yerida Tzorech Aliya. Otama Anashim, donc ce que dit ici le Rav Kook, c'est qu'une grande pensée, une grande idée a été prise en charge par des petites personnes, mais ce n'est pas grave, ça fait partie, même on pourrait dire à la limite, du plan. Otama Anashim Shem Ktanim Be'echut, Yeshlaem Godel Kamuti. Ces hommes qui sont petits en qualité ont une grandeur quantitative. Ça veut dire que ce dont sont capables les activistes, ceux qui œuvrent pour le sionisme politique et pratique, ont l'avantage, si on veut, du nombre. Ils sont capables de réunir beaucoup de monde et beaucoup de moyens. Vega midazo afalpishi nershevet kelo legabe aichut, et cette vertu-là, qui en vérité est nulle par rapport à la qualité, c'est-à-dire la quantité par rapport à la qualité ne vaut rien, mikol makom, mais de toute façon, keshehi mitztarefet im aichut im atarta, quand elle s'associe à la qualité, elle la couronne. Uverov am hadrat melech. Nous avons une expression, un verset. Quand il y a abondance de peuple, c'est la gloire du roi. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait un roi. Mais s'il y a un roi, alors plus grand est le nombre des personnes qui viennent en son honneur, mieux c'est. Alors, ce que dit le Rav Kook, ici, le roi, en fait, c'est l'idée du retour à Sion. Et Rov'am, l'abondance, la multitude du peuple, eh bien, il s'agit des capacités du sionisme politique. Velav davka hakamut amisparit. Quand on parle de quantité, il ne s'agit pas forcément de la quantité dénombrable, les chiffres. Kim gam hakamut akochanit, mais également la quantité potentielle. Le mot kochani, il ne faut pas se tromper, en hébreu moderne, kochani veut dire violent, mais en hébreu de l'époque rabbinique et celle du Rav Kook entre autres aussi, ça veut dire potentiel. Donc la quantité potentielle, hameretz, l'énergie, vers chefetz lirdof ou leasig, le désir d'acquérir, de réussir, les chonen et amevukash les dedrachim maasim vidgalut akoar, et pour établir ce que l'on recherche à travers des voies pratiques et puissantes. Kolze midgale yoter etzel anashim ba'ale chomer chazak vegas vechasri ruach atzili. Tout cela se révèle plus chez les hommes qui sont attachés à la matière épaisse et grossière et qui manquent d'esprit noble. Hamatish alpirov et akoar bihuso la chomer, qui a d'habitude affaibli la puissance de la relation à la matière. Donc, ce que nous dit le Rav Kook, il y a une expression qu'on trouve souvent chez les religieux et qui est très problématique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expression de ishtadlut, quand c'est prononcé avec milael, c'est-à-dire avec l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe, ishtadlut. Ce qui vient du mot hébreu ishtadlut, qui veut dire faire un effort. Alors souvent, vous avez chez des religieux cette expression, moi j'ai fait un effort, et le bon Dieu accomplira la suite. C'est-à-dire, c'est une manière de ne pas réussir. Tandis que celui, par exemple, qui ne croit pas en Dieu, ou qui en tout cas met Dieu de côté, alors pour lui, la ishtadlut n'existe pas. Il faut réussir. C'est-à-dire, j'ai tous les moyens matériels de réussir, il faut que je les mette en application. Kacher, et donc c'est ça que dit le Rav Kook. Le fait d'être spirituel, d'être du côté des « good guys », comme on dit, parfois affaiblit la puissance. Donc, la providence envoie ses activistes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons-nous qu'il y a 100 ans, le bon Dieu ait demandé à un groupe de rabbins de bonne volonté de donner leur avis. Est-ce que l'on peut fonder un État qui serait en accord avec la halakha? Alors, les rabbins auraient donc siégé pendant 6 mois, et après, ils auraient fait la déclaration suivante. Ils auraient dit, « Maître du monde, nous avons réfléchi à votre demande, et nous sommes arrivés à la conclusion que pour fonder un État qui soit en accord avec la halakha, c'est possible. Mais ça nous demande de tenir compte de certaines facilités, d'arrondir les angles du côté de la halakha dans tel et tel domaine. Et ça nous gêne beaucoup. Alors, nous avons un principe qui est « chef ve'alta aseh adib », c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne rien faire. Et donc, nous proposons au maître du monde de repousser la décision de fonder un État jusqu'à ce que les conditions halakhiques soient meilleures. Mais Akadosh Baruch Hu, qui lui est intéressé à fonder son État, n'a pas tenu compte des rabbins, il a demandé à son serviteur Ben Gurion de bien vouloir le faire. Or Ben Gurion, comme on peut dire, il s'en fiche pas mal de savoir si on va manger kasher, si on va respecter le Shabbat, si on va faire pousser sa barbe à l'armée ou pas. Lui, il sait fonder un État. Et puis par la suite, il va demander au Rav Maimon et aux religieux d'entrer dans le gouvernement et de régler les problèmes secondaires tels que la kashrout dans l'armée ou le respect du Shabbat sur la place publique. Ça, c'est secondaire de son point de vue. Eh bien, c'est exactement ça que nous dit ici le Rav Kook. Il y a ceux qui ont la puissance de l'action, et c'est eux qui vont faire bouger l'histoire, et Dieu va accomplir ses projets à travers eux. Je voudrais vous raconter à ce propos une petite histoire. Manitou a raconté qu'un jour, un ecclésiastique, je ne sais pas, curé, je ne sais pas exactement de quel niveau, lui a dit « C'est quand même dommage que les pionniers qui construisent aujourd'hui la Palestine ne soient pas religieux, parce qu'ils accomplissent les paroles des prophètes. » Et Manitou lui a répondu « Au contraire, s'ils étaient religieux, alors on dirait qu'ils le font pour accomplir les prophéties. Donc, ils sont motivés par une idéologie déjà vendue à l'avance. Tandis que, étant donné qu'ils ne sont pas religieux et qu'ils accomplissent malgré tout le projet des prophètes, ça prouve que c'est la providence qui est intervenue. » Manitou rajoutait, est-ce que vous pensez que le curé a compris? En tout cas, c'est ça l'idée qu'il y a ici. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, ils ont au moins la force de l'action. Donc, je continue dans le texte, dans la mesure du possible, évidemment. « Ka'asher ha-marshavat tzricha liknot la basis chomri » Lorsqu'une pensée doit acquérir une base matérielle, « Darka la redet mima alata » elle a pour nature de descendre de son niveau. Peperek Kazé, dans un épisode de ce genre, iné mushlechet laaretz. Alors, l'idée est jetée au sol. Ou faritzim baim ba ou mechalelim et kedushata. C'est alors que des faritzim, ça veut dire des dénués de conscience, des inconscients viennent et profane sa sainteté. Aval imze mitrabim mukhlusea. Mais cela fait que l'idée agrège à elle une grande multitude. Vid galut haomet sachomri olechet venosefet. Et la révélation, la manifestation de la puissance matérielle va en s'accumulant. Advarim ulchim kar. Alors, donc, se dit le Rav Kook, en fait, il décrit, sans dire le nom, mais enfin, il décrit le phénomène du sionisme matérialiste qui réussit, par sa puissance, non seulement à s'acquérir l'accord de la multitude, mais également l'efficacité. Advarim olchim kar, ad boator, et tout cela continue jusqu'à ce que vienne le moment, shemit orerim adin elev, chamushim bekoar sitkat Hashem, que s'éveilleront ceux qui ont un cœur délicat, mais armé de la puissance de la justice divine, vem olim adrosh apisgash el mekor tarata marshava, et remonte jusqu'au sommet de la source de la pureté de cette pensée, umit amkim betochiyuta, et approfondit son intériorité. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, tout cela continue jusqu'à ce que vienne le Rav Kook. Et le Rav Kook a pour rôle justement de révéler la pensée pure qui se cache derrière les phénomènes un peu, disons, grossiers, un peu matérialistes que nous voyons. Il y avait à l'époque du Rav Kook toute une perplexité autour du sionisme. Lorsque le sionisme politique est apparu, il y avait chez les rabbins trois options. Il y avait deux options minoritaires et une majoritaire. L'option minoritaire, d'une part, était le refus catégorique du sionisme. Il y avait à l'époque quatre rabbins seulement qui se sont opposés au sionisme lorsqu'il est apparu. Il y avait une toute petite minorité qui, elle aussi, était catégoriquement favorable au sionisme. C'était également un petit groupe. Et la grande majorité de la communauté rabbinique était dans la perplexité et ne savait pas comment réagir au phénomène. Et on peut dire que la grandeur du Rav Kook a été son diagnostic. Il a diagnostiqué dans le phénomène du sionisme cette mouvance que les sages du Talmud ont appelée Mashiach ben Yosef, le messianisme joséphique, c'est-à-dire la première couche du messianisme, qui est faite donc de puissance économique et politique, et sur la base de laquelle doit intervenir après le niveau supérieur de la délivrance, qui est le messianisme davidique. Et cette manière de diagnostiquer les choses a permis justement à de nombreux rabbins, pas à tous, mais à de nombreux rabbins, de sortir de la perplexité que le sionisme leur présentait. Bon, tout ça, ce que je vous raconte, c'est un peu de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, ça appartient tout ça à l'étude du passé. On fait des doctorats là-dessus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement vital et très important pour la majorité des étudiants de la Torah. Et donc, ce que nous dit ici le Rav, c'est que doivent apparaître sur la scène ceux qui sont capables de cette analyse. Donc, il parle de lui-même, entre autres. Maintenant, je suis dans l'impossibilité de continuer l'enseignement, étant donné que le texte n'apparaît pas, maintenant il apparaît, sur l'écran. Donc, advarim olchim kar adbo ator she mit orerim adin elev chamushim bekwartit katashem, c'est-à-dire les choses continuent jusqu'à ce que s'éveillent ceux qui ont une analyse délicate et qui sont armés de la certitude de la justice divine, vem olim adrosh apisgash el mikor tarat amarshava, ils remontent jusqu'au sommet, le haut du sommet de la source de la pureté de la pensée, umitam kim betochiyuta, et approfondissent son intériorité, machnisimba et tatoar chez benishmatam, ils y introduisent la pureté qui est dans leur âme. C'est-à-dire le Rav Kook s'investit également dans le processus. Et kavanatehem a adinot ou marchevotehem a azakot, ils y rajoutent leurs intentions délicate et leur pensée limpide. Ou mitorkar, c'est à partir de là, zo hamarshava haklalit beatzma, cette pensée collective elle-même, shemipne machove aruchanim, qui à cause de ses souffrances spirituelles, mitkirat akotsim asovevimota, à cause des épines qui s'introduisent en elle, se trouve épuisée et sans force, betardemat mavet, dans une léthargie mortelle, vikimat ben ruachaim, et presque sans souffle de vie, mitorereti ou matrila lehashpia, s'éveille et commence à influencer al kol anigashim elea, pour tous ceux qui s'y approchent, tal chaim, une rosée de vie, behod givura mipnimiyuta, avec la splendeur de sa puissance qui vient de son intériorité. C'est-à-dire que l'image qui est amenée ici, c'est une image que l'on trouve chez les kabbalistes, qui est que la communauté d'Israël, non pas, je ne parle pas du peuple en acte, mais je parle ici de, pour dire, de l'idée d'Israël, c'est-à-dire cette idée au sens platonicien du terme, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entité spirituelle qu'on appelle Knesset Israël qui est comparée à une rose. En effet, le Zohar, c'est comme ça que le Zohar commence, décrit la collectivité d'Israël en tant qu'entité spirituelle comme étant une rose avec 13 pétales, parfois blanc, parfois rose. Et cette rose à 13 pétales est entourée d'épines. D'accord ? D'ailleurs, image qu'on retrouve dans le livre très important, Le Petit Prince, les épines de la rose. Et pour le Rav Kook, toutes les interprétations, disons, déviantes de ce que devrait être le sionisme, c'est-à-dire le sionisme dans le sens spirituel du terme, et ce sionisme est entouré d'épines. Rappelons-nous une chose importante, c'est que les premiers mouvements qui ont fondé l'ancien Yishuv. Rappelons une chose, pour bien comprendre ça, vous savez qu'on parle souvent dans le narratif sioniste officiel, on parle de la première Aliya, puis de la deuxième, de la troisième Aliya, quatrième, etc., jusqu'à l'État d'Israël. Et après, la Aliya des Éthiopiens, la Aliya des Russes, etc. En vérité, ce qu'on appelle la première Aliya, c'est une négation des Aliyot précédentes. Il y a la Aliya 0, la Aliya moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Lorsqu'il y a eu la première et la deuxième Aliya, il y avait déjà en Israël ce qu'on appelait, en Palestine de l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Yishuv Hayashan, l'ancien Yishuv. Or, sans la présence de l'ancien Yishuv, jamais les kibboutzim n'auraient pu réussir. C'est parce qu'il y avait déjà une implantation juive en Eretz Israël qui était majoritairement religieuse que le sionisme politique a pu réussir. Or, les motivations de ces aliyot étaient des motivations spirituelles. Je pense par exemple au Rachaim, je pense par exemple à l'aliya des élèves du Baal Shem Tov, et puis l'aliya des élèves du Gaon de Vilna, qui tous venaient en Eretz Israël pour fonder à nouveau la terre d'Israël dans une perspective de spiritualité, de rencontre avec l'Éternel. Et donc, il y avait déjà un sionisme avant le sionisme. Ce sionisme avant le sionisme est comparable dans l'imagerie du Rav Kook, dans les paraboles qu'il emploie, est comparable à une rose. Mais cette rose est entourée d'épines. D'ailleurs, dans le Yehi Ratzon, la petite prière que l'on récite avant de réciter les psaumes, avant les Tehillim. Alors, on demande, c'est écrit en toutes lettres, c'est dans un texte écrit par le Chida, que grâce à la récitation du livre de Tehillim, soient coupées les épines qui entourent la rose d'en haut. Akotsi masovim et tashoshana ha'eliona. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce thème est repris ici par le Rav Kook entièrement, sauf le mot rose. Mais il y fait allusion. D'accord, je reprends donc ici. Umitorkar, Zohar Marcheva Kalit Beatzma. Et grâce à ces tzadikim qui rentrent dans l'intériorité du sionisme, cette pensée collective en elle-même, cette pensée collective, il parle ici donc de la rose, c'est-à-dire l'entité spirituelle qui est la collectivité d'Israël. Shemipne Machovea Ruchaniim, qui, à cause de ces souffrances spirituelles mitkirat akotsi masovim mota qui lui sont causées par l'introduction des épines qui l'entourent. J'ai une question, dit Michael Méthodi. Le Rav Kook ne voulait pas parler de rose pour éviter de se référencer à la Kabbalah? Non, simplement, il veut traduire en termes qui soient compréhensibles par le lecteur. C'est pour ça que le Rav Kook parle ici un langage relativement simple, n'est-ce pas? Quelle est la question de...
Ah, oui, excusez-moi, parce que c'était un peu trop long. Oui, c'est juste, je suis désolé, je remonte un tout petit peu sur le message du Rav Kook juste avant la rose, parce qu'en fait, j'arrive pas à dépasser cette idée. C'est que, en fait, j'ai le sentiment que le Rav Kook magnifie l'action dans le concret. On a l'impression que les figures de proue, c'est les hommes politiques, c'est les agriculteurs, etc. Et c'est extrêmement perturbant pour nous qui avons grandi dans, je dirais, la gloire de l'étude. Et j'ai presque envie de vous dire, de manière un peu provocatrice, qu'est-ce qu'on perd notre temps ici à vous écouter? On a presque envie de penser que le Rav Kook, qui nous dit « Fermez vos ordinateurs, sortez de vos yeshivot et allez dans le monde, faire avancer le monde. » Et donc, ma question, c'est quid des yeshivot, des gens qui passent leur vie dans les maisons d'études, et quid, en fait, de ce message qu'on nous a enjoint depuis notre enfance à étudier en permanence, jour et nuit, etc. Voilà, je trouve ça assez presque schizophrénique par rapport à ce qu'on nous...
Oui, effectivement, il y a effectivement une tension intérieure dans la pensée du Rav Kook. N'oubliez pas que le Rav Kook lui-même a fondé une yeshiva. Et non seulement il a fondé une yeshiva, mais il a fondé également le grand rabbinat de Palestine de l'époque. Et qu'il a produit une littérature rabbinique abondante, aussi bien en halakha qu'en haggadah. Et donc, on peut dire que dans le programme de sa vie personnelle, il n'était pas en train de faire de l'agriculture. On peut dire que le Rav Kook a développé ce qu'on appelle une pensée organique. C'est-à-dire, pour lui, le processus nécessite un ensemble de forces dans cet ensemble, chacun se spécialise. Et le fait de se spécialiser est possible dans la mesure où les différentes factions ne se comprennent pas l'une l'autre. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, il est important que les différents secteurs de la société soient ennemis l'un de l'autre, pour pouvoir mieux se consacrer à ceux pour lesquels ils ont une tendance particulière. C'est-à-dire que ceux qui veulent l'étude vont refuser justement l'action pratique, et donc ils seront spécialisés en étude. Tandis que ceux qui sont dans l'action pratique vont mépriser l'étude, ce qui va leur permettre justement de se consacrer à leur projet. Et donc on peut dire que le Rav Kook invite également des êtres d'exception, comme lui par exemple, à regarder les choses d'un peu d'en haut, et de bien s'amuser, pourrait-on dire. Et effectivement, c'est vrai que le Rav Kook est pour l'opposition des secteurs. Il encourage ce qu'on appelle la sinat rinam, c'est-à-dire il aime tellement tout le monde qu'il aime même la haine gratuite. Mais il dit par la suite, c'est dans Oroth, hein, je vous dis ça, c'est dans Oroth, mais il est bon quand même qu'on se comprenne un peu. Et donc, si vous avez un passage dans lequel le Rav Kook magnifie l'action politique et matérielle, eh bien, tout cela est à mettre en parallèle avec d'autres passages dans lesquels il dit qu'il n'y a rien comme l'étude et la conscience qu'ont les tzadikim de ce qu'ils font, etc., etc. En fait, pour que ça marche, il faut qu'il y ait à tout un groupe de personnes, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je pense avoir plus ou moins...
Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en ce moment.
Enfin, ceux qui veulent prendre maintenant une pioche pour aller s'occuper de faire pousser la terre d'Israël, c'est très très bien, j'encourage. Les pioches aujourd'hui se vendent pour pas très cher. Voilà. Bon, on va continuer.
Merci beaucoup.
Vakasha, c'est mon plaisir. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. David Altar est toujours au fait de l'actualité, il connaît beaucoup de choses. Moi, je connais rien, je ne connais que les textes. Et donc j'en étais ici à la rose en question, donc la pensée collective. Imutelet ayefa bechulshat koach betardemat mavet. Elle est donc jetée, fatiguée, dans une faiblesse, dans une léthargie mortelle. Vichimat ben ruach haim est presque sans souffle de vie. Mitoreret, elle s'éveille. ou matrelet le hashpia al kol anigashim elea, et commence à influer sur tous ceux qui s'approchent d'elle, c'est tous ceux qui deviennent sionistes, tal chaim, de la rosée de vie, behod kvura pnimiuta, avec splendeur de puissance qui vient de son intériorité, vaz mit alim beilouya kol advikim ba. Et c'est alors que quand elle s'élève, cette idée-là, elle élève également tous ceux qui y sont attachés. Et même ceux qui étaient attachés, à cette idée, c'est-à-dire du sionisme, lors de sa pauvreté spirituelle, qui, par méchanceté, se sont éloignés du chemin central qui était ouvert pour la direction de la pensée. Iné, inam gamhem italimima s'élève également avec elle, shavim aliada bitshuva biira, et font teshuva grâce à elle, d'une teshuva claire et supérieure, bim of nesher, par un envol d'aigle, bekalut nifla, avec une facilité merveilleuse, qui n'a rien de comparable dans toute idée de teshuvah, qui vient d'un éveil de la puissance de bien qui se trouve dans une identité individuelle. C'est-à-dire, on peut voir dans la teshuvah d'un individu quelque chose de sublime, de beau, mais c'est incomparable par rapport à la teshuvah qui se fait à travers l'élévation du sionisme. On peut dire de ce point de vue-là, et ça je crois qu'on en avait parlé déjà au début, que le sionisme est le plus grand mouvement de teshuvah de l'histoire. Amahaze aze, bo yavo velo yacher. Cette vision viendra, ne sera pas en retard. Or Hashem, la lumière divine, hameulaf bar pilim, qui est enveloppé de brouillard, Haganuz bin Kudat Sion Ayesodit Yofia, qui est caché dans le point de Tzion fondamental, apparaîtra. Alors là, le Rav Kook ici emploie une expression réellement kabbalistique et qui a besoin d'un certain éclaircissement. Il y a cette idée qu'on appelle Nekudat Tzion. C'est quoi Nekudat Tzion, le point de Sion? Vous savez, il y a dans le monde, c'est une banalité, il y a énormément de choses, d'accord ? Or, beaucoup de choses, c'est également des idées, des mouvements spirituels, des mouvements matériels, des tas de manifestations, des phénomènes, comme on dit en philosophie. Mais tous les phénomènes ont besoin de ce qu'on appelle un point d'appui. Comme disait Archimède, donnez-moi un point d'appui et je vous soulèverai le monde. Eh bien, exactement... c'est le point d'exclama Sion. La vanne est merveilleuse, j'admets. Et donc, je reviens à cette idée de Nekudat Sion. Il est nécessaire qu'à travers tous les phénomènes, il y ait un point fondamental de stabilité qui serait l'origine de l'ensemble des phénomènes. Ça me rappelle une idée que développait le sage Chacham Shushani, le maître secret de Lévinas, qui disait que une des preuves de l'existence de Dieu, c'est la nécessité d'un point absolu par rapport au relatif. C'est-à-dire que toute relativité est relative à un point d'absolu. C'est comme par exemple dans les coordonnées en mathématiques, quand vous faites un graphisme avec une ligne X et une ligne Y, vous avez besoin d'un point zéro, qui est le point d'origine. Et ce point d'origine de tous les êtres est appelé Nekudat Tzion chez les kabbalistes, le point de Sion. Ça se réfère à un enseignement de la Gemara dans le traité de Yoma, page 54b, dans lequel on se demande à partir de quoi est-ce que le monde a été créé. Et une des opinions développées par la Gemara, c'est que le monde a été créé à partir d'un point qui s'appelle Tzion. Et ce point qui s'appelle Tzion s'exprime dans la réalité par l'option nationale d'Israël. Alors, ce point national d'Israël est en léthargie pendant le temps de l'exil, mais il se manifeste de plus en plus dans l'histoire, il commence à réapparaître. Donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que le mouvement sioniste, et pas seulement le mouvement sioniste des Juifs, mais toute la conjoncture géopolitique qui a permis l'apparition du sionisme, y compris l'antisémitisme, y compris les guerres napoléoniennes, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui a permis cet ensemble de faits qui ont permis l'apparition du sionisme, sont en vérité le fruit d'un mouvement secret de cet élément qu'on appelle Nekudat Tzion. Alors je reprends ici le texte en hébreu, tout va être clair. Or Hashem ameulav barpilim, cette lumière divine qui est enveloppée de brouillard, haganouz qui est caché, binkudat Tzion ayesodit, dans le point de Tzion fondamental, Yofia, va apparaître, cette lumière va apparaître. Ya'ale me'emek habacha, et fera remonter de la vallée de la perplexité, c'est une des manières de traduire ce mot, et mikdash meler irmelucha. C'est ce lieu qui est le sanctuaire du roi, qui est la ville de la royauté, Vechol Agapea, et toutes ses dépendances, il parle de Jérusalem évidemment, Ve'ima ya'alu kol ha'marzikim b'chnaf mi'ila, et c'est avec elle que remonteront tous ceux qui s'attachent au coin de son manteau, au pan de son manteau, Akerovim v'arechokim, qu'ils soient éloignés ou proches, Vitriat emet, Vishwat et Olamim, à une résurrection véritable, à une rédemption éternelle. Donc, ce que dit le Rav Kook, nous voyons des phénomènes qui sont troublants pour ce qu'on appelle l'âme religieuse. Et donc, le Rav Kook dit, oui, mais moi qui connais les secrets de la Torah, je comprends ce qui se passe là-bas. Moi, le Rav Kook, je m'investis là-dedans pour introduire la racine de pureté qui se cache derrière le phénomène. Et croyez-moi, dit le Rav, cela va entraîner une élévation du sionisme vers son origine, qui fait que tous ceux qui sont attachés à cette idée, finalement, vont s'élever avec elle. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que le Rav Kook n'a pas dit une seule fois le mot de sionisme, ou de retour à Eretz Israël. Parce que, bien que ce soit le phénomène qu'il vise, qu'il veut analyser, en vérité, tout cela est vrai pour toute idée fondamentale. C'est-à-dire, on peut voir des mouvements dans l'histoire qui sont censés réaliser des grandes idées, mais ces grandes idées sont profanées par les acteurs. Et je pense par exemple aux idées de la Révolution française. Nous avons tous étudié ces choses-là. Nous voyons comment les grands idéaux de liberté, égalité, fraternité ont été profanés par le comité de salut public, par des gens bien intentionnés malgré tout, tels que Robespierre et Saint-Just, qui ont fait les pires horreurs du monde. Est-ce que ça veut dire que l'idée ne pouvait pas être appliquée? Si, mais quand elle passe dans l'histoire, elle traverse également des prises en charge par ceux qui ne sont pas dignes de ces idées-là. Il y avait pas mal de voyous dans la Révolution française. C'est une idée parmi tant d'autres. On peut prendre d'autres mouvements de pensée et appliquer cette idée du Rav Kook. Donc nous avons fini pour l'instant le passage Yud-Bet, et nous pouvons donc continuer au chapitre prochain. Il nous reste très peu de temps, mais je pense que ça vaut la peine quand même de commencer. Perek Yud-Gimel, chapitre 13, Orchot Teshuvah, Ruchaniot, Maasiot, des cheminements de Teshuvah spirituels et pratiques. Donc il y a, une fois que là nous avons vu des grandes analyses sur les grands phénomènes, nous découvrons également qu'il y a des motivations de Teshuvah qui ne sont pas celles de tout le monde, mais ça peut être certaines de ces motivations-là. Là, je reprends donc le Aleph. « Yefchar li dabek be'emet ba'yesod aliumi shel Israël ki mi shenishmato ou tahara. » C'est-à-dire, on ne peut véritablement s'attacher à l'idée à l'idée fondamentale nationale d'Israël que si notre on possède une âme qui s'est déjà purifiée kvar à l'idée teshuva par la teshuva. D'ailleurs, la virgule n'est pas en place. C'est-à-dire, on dirait Mishé Nishmato Uthara Kvar, celui dont la Neshama a été déjà purifiée, à l'idée Teshuva par la Teshuva, Mechatot Adam Amigunot Umidotav Apirutot, des péchés de l'homme dépréciable et de ses défauts les plus bas. O Mishé Nafsho Lechatrila, Inefesh Teora, ou celui dont l'âme est a priori une âme pure. Tiens donc, ça veut donc dire que si je veux être attaché à l'idée nationale d'Israël, je dois faire teshuva. Ça a l'air de contredire la réalité. Dans la réalité, nous voyons qu'il y avait des individus attachés à l'idée nationale d'Israël qui n'avaient pas fait teshuva. Mais si l'on parle ici de Rafou, il ne parle pas de la teshuva au niveau de la halakha, dans le moindre des détails, mais il s'agit de la teshuva des mauvaises qualités, des mauvais caractères. Et pourquoi ? Qui a yesod amiti shel trunat ha'uma israélite ? Parce que le véritable fondement du caractère de la nation d'Israël, ou sheifat atzedaka ha'eliona, est l'aspiration à la justice suprême, tzidkat Hashem ba'olam, la justice de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tout ethos national porte en lui des valeurs. Or, les valeurs qui sont portées intérieurement par le mouvement national d'Israël, c'est la justice de Dieu. Et tout celui qui a été souillé par un péché, les fiota amida shel zoamato, selon la mesure dont il a été souillé, en chefes atzedaka ve'atov mir bikirbo karaoui, alors n'est pas véritablement illuminé par le désir de faire la justice et le bien. Et c'est pour ça qu'il ne sera pas véritablement attaché à l'idée nationale jusqu'à ce qu'il se purifie. Voilà, ça c'est donc la première idée du Rafou qui va être développée un peu plus dans les paragraphes qui vont venir et que nous aurons la chance peut-être d'étudier la prochaine fois. Shalom, à bientôt, à tout le monde.
Shavua Tov.
Shavua Tov.